Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à tous et à toutes, Florence Westergaard pour ce podcast. Cette semaine, dans notre dernière édition d'Escale de l'année 2019, nous allons parler du bonheur avec Elisabeth Osterhoff. Elle vient de sortir un livre sur les nombreux visages du bonheur. Restez à l'écoute.
Le bonheur, il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ?
Donc, Elisabeth Osterhoff, bonjour.
Bonjour Florence.
Merci d'être parmi nous dans nos studios à ONU Info.
Ça me fait grand plaisir. Merci de m'avoir ici avec vous.
Donc, vous êtes fonctionnaire des Nations Unies depuis un certain temps, depuis 1992, je pense.
C'est bien ça.
Et vous travaillez au département de communication globale.
Oui.
Mais nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un livre que vous avez écrit et un livre qui vient de sortir intitulé « Many Faces of Happiness, Inspiring Stories of What Makes People Happy » ou en français « De nombreux visages du bonheur, des histoires inspirantes sur ce qui rend les gens heureux ». Donc c'est un très beau titre et merci. C'est un sujet, le bonheur, c'est quelque chose que tout le monde, je pense, aspire. Et donc peut-être pour commencer, comment avez-vous eu l'idée de ce livre ?
Tout a commencé le 31 décembre 2009, lorsque je parlais avec un des messagers de l'ONU et on parlait de nos intentions, de nos bonnes intentions pour l'année 2010. Et tout d'un coup, je lui ai dit « Alejandro, qu'est-ce que tu penses si en 2010, j'interviewais une personne tous les jours sur le bonheur ?» Il m'a dit « Elisabeth, je trouve que c'est une idée fantastique, fais-le !» Et c'est ainsi que, je dois dire, une des plus belles années de ma vie a commencé. Et j'ai fait une interview tous les jours en 2010 sur le bonheur. Et je pourrais peut-être ajouter que la plupart de ces interviews ont eu lieu aux États-Unis, mais aussi en Espagne et au Japon. Et lorsque j'ai fait ces interviews, j'essayais d'avoir le plus grand éventail possible de gens du point de vue socio-économique, d'affiliation religieuse. J'ai aussi voulu essayer de maintenir un équilibre entre le nombre de femmes et d'hommes, et aussi du point de vue des âges. Alors par exemple, le plus jeune, c'était un petit garçon haïtien de 5 ans, et la personne la plus âgée, c'était ma voisine de 98 ans.
Donc, quelles sont les histoires, y a-t-il une histoire ou plusieurs histoires qui vous a le plus marqué ?
Je dirais que d'une certaine façon, d'une manière ou d'une autre, toutes leurs histoires m'ont marqué. Bien sûr, il y en a certaines qui m'ont marqué plus que d'autres, mais le fait que ces personnes aient pris le temps et se sont confiées à moi, juste ce simple fait, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et mon livre ne contient pas seulement des histoires de bonheur, mais aussi des histoires de tristesse. Mais en parlant des histoires de bonheur qui m'ont le plus touchée, c'était l'histoire d'une dame sans domicile. Et elle me disait que ce qui lui rendait la plus heureuse, c'était de faire plaisir aux autres. Elle me disait, une fois que je ne serai plus dans la rue, Elisabeth, je vais t'inviter et je vais te donner une tarte aux pommes. Donc ça, ça m'a beaucoup touchée. Mais il y a aussi la dame qui m'a parlé de miracles, le jeune homme qui m'a parlé de ses premières amours. Il y a le Sikh qui m'a parlé du jour le plus heureux de sa vie quand il avait 20 ans, je crois, quand il a enlevé son turban, il a coupé ses cheveux. Il m'a dit « Je me sentais comme un oiseau qui est devenu libre et qui est sorti de sa cage ». Il y a aussi l'histoire du prêtre qui venait d'une pauvre famille. En Philadelphie, il est devenu prêtre ermite pendant 17 ans, je crois. Ensuite, il a voulu aider les pauvres dans la jungle en Bolivie. Il est resté pendant plusieurs années. Et vers la fin de son séjour là-bas, il est tombé amoureux d'une femme. Mais il était prêtre. Donc, c'était sa lutte intérieure et aussi avec Dieu, avec l'Église. Qu'est-ce qu'il allait faire ? Est-ce qu'il allait se marier ? Est-ce qu'il allait laisser son métier d'être prêtre ? Et finalement, il a opté pour changer sa dénomination religieuse pour devenir presbytérien. Parce que là, on peut se marier. Donc, il y avait un tas d'histoires de bonheur, d'espoir qui m'ont inspirée. Mais il y a aussi des histoires de tristesse, comme je t'ai dit. Par exemple, il y avait la dame qui avait un fils qui s'était drogué pendant de nombreuses années. Et il n'arrivait pas à trouver des raisons pour son bonheur, des raisons pour être heureuse. Mais quelques années plus tard, elle m'a écrit pour me dire que son fils n'était plus dépendant de la cocaïne. Donc ça, c'était un vrai bonheur. Il y avait aussi la dame qui avait découvert son mari dans le lit avec sa maîtresse après 20 ans de mariage. Mais encore une fois, elle a terminé sur un bon conseil. Elle a dit « Mon papa, il m'a toujours dit qu'il ne faut jamais se laisser maltraiter par personne et tu peux très bien réussir toute seule. » Donc je dois dire que pendant toutes ces années, quand j'ai travaillé très dur sur toutes ces interviews, toutes les voix de ces personnes, ça m'accompagne Et toujours aujourd'hui, je pense souvent à leurs histoires parce que j'ai passé beaucoup de temps avec eux.
Et comment, parce que parler du bonheur, c'est une question un peu personnelle, comment vous arrivez justement à ce qui se confie à vous ? Vous avez un secret ?
Comme vous le savez, Florence, quand on interviewe quelqu'un, je pense qu'une grande partie, c'est l'attitude personnelle que l'on présente. Il faut communiquer une image positive, heureuse, et aussi, il faut bien écouter les gens. Et je crois que la plupart des gens, ils aiment qu'on les écoute. Et parfois, on se confie très bien à une personne qu'on ne connaît pas et qu'on sait qu'on ne va jamais revoir. Mais je dois avouer que de temps en temps, j'avais des intentions altruistes et je voulais rendre heureux les gens qui avaient l'air tristes ou déprimés en leur faisant une petite interview sur le bonheur. Mais ça ne marchait pas toujours, surtout lorsqu'ils préféraient dormir dans le train plutôt que de me parler.
Oui, donc vous avez eu aussi des rejections, quoi. Oui. Les gens vous ont dit non, il n'en est pas question.
Oui, et je dois dire que j'en ai pas eu beaucoup, peut-être 5% grand maximum. Et c'était marrant parce que souvent, une rejection était suivie par une ou même deux. Et je me disais que ces jours-là, peut-être que je ne projetais pas une image suffisamment positive. Mmh. Alors bien sûr, quand la troisième personne m'a dit que oui, j'avais envie de les embrasser et dire merci.
Et donc, avec toutes ces histoires, comment est venue l'idée de faire un livre de toutes ces histoires ? Depuis le début ?
Oui, je crois depuis les 6 premiers mois. Mmh. Parce que j'ai pris des notes, j'avais plusieurs cahiers avec toutes mes notes, parce que je voulais garder toutes leurs paroles mot par mot. Et après, je les ai tapées sur mon ordinateur portable dans le train, parce que j'ai 1 heure de voyage aller-retour. Mais c'est vraiment les 2 dernières années que j'ai travaillé très, très dur pour publier.
Et donc, dans ce livre, il y a les 365
non.
histoires,
non ? Non.
Ça aurait été trop long, oui. peut-être ?
J'ai pris les interviews que je pensais pouvaient être le plus intéressant pour les gens. Mais comme je vous disais, pour moi, toutes les interviews avaient une grande importance. Parce qu'ils se sont confiés à moi, après tout.
Et comment vous êtes arrivé à trouver le temps pour écrire ce livre ? Parce que vous travaillez à plein temps, vous oui. avez une famille. Oui. Donc, comment on arrive justement à écrire un livre ?
J'ai fait les interviews durant mon heure de lunch ou bien dans le train. Et je transcrivais mes notes dans le train. Et si je ne pouvais pas terminer, je le faisais le soir. Donc, je passais parfois 2-3 heures par jour à penser au bonheur.
C'est une mauvaise chose, peut-être.
Non, comme je vous ai dit, c'était une des meilleures années de ma vie.
Donc, en tout, ça vous a pris combien de temps ? Donc, vous avez passé l'année à faire ces interviews, mais à vraiment mettre toutes ces interviews ensemble.
Vous savez, avant, je jouais beaucoup au tennis. Donc, d'habitude, je commençais à travailler au mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de mars. Mais quand arrivait la saison du tennis, je cessais de travailler sur mon livre. Mais au mois d'avril 2016, j'ai décidé que maintenant, je voulais publier. Et depuis avril 2016 jusqu'en novembre 2019, j'ai travaillé presque sans arrêt sur mon livre.
Et donc, ce livre est publié. Est-ce que vous avez des bonnes réactions ?
Oui. Je le vends en ligne. Et la plupart des exemplaires que j'ai vendus, c'est en paperback. Parce que je crois que c'est un livre qu'on veut feuilleter. Ce n'est pas un livre tellement qui s'apprête au e-book. Et pour moi, ce qui est important, c'était de transmettre les messages, les voix des personnes que j'avais interviewées. Ils m'ont donné tellement de joie, ils m'ont tellement inspirée, ils m'ont donné du courage, ils m'ont consolée, parce qu'il y avait tellement de scénarios différents dans leur vie qu'ils m'ont raconté. Et au début de l'année 2019, j'ai décidé, il est temps que mon bébé naisse, je veux que leur voix soit répandue pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et à partir de janvier 2019, j'ai travaillé avec un éditeur. Et bon, le livre est sorti 11 mois plus tard.
Donc, le livre est terminé. Y a-t-il une suite à ce livre ?
Non. Non, il n'y aura pas de suite parce que c'était vraiment un grand projet. Je dirais que ça a presque pris 10 ans.
Y a-t-il un autre projet ?
En ce qui concerne des livres, j'aime beaucoup interviewer les gens. Donc, j'ai 2 sujets qui me passionnent. Un, c'est faire un livre sur les Norvégiens en Patagonie parce que je suis norvégienne et j'adore l'Argentine. L'autre sujet qui me passionne également, ce sont les femmes latino-américaines qui viennent ici aux États-Unis, légales ou illégales, et parler de leur vie aux États-Unis, de leur vie en Amérique. l'Amérique latine. J'aimerais beaucoup faire des interviews sur ça. Mais pour le moment, j'ai d'autres projets en ce qui concerne le livre. J'ai fait un programme pour les jeunes dans les bibliothèques, on fait des lectures.
Et vous lisez ce livre, justement?
Oui, il faut dire que 30% de ce programme est peut-être au sujet de mon livre. Sinon, c'est au sujet de la Norvège, de nos peuples samis, les Lapons, et aussi beaucoup, beaucoup d'explications sur les différents trolls que nous avons en Norvège, et un peu sur le Gross National Happiness Concept du Bhoutan. Donc ça, c'est un de mes programmes que j'ai déjà fait une présentation dans une bibliothèque et on a une autre que je vais faire au mois de janvier. Et en même temps, je travaille sur un programme pour les personnes âgées, les personnes malades dans les maisons de retraite. J'ai déjà choisi les interviews que je compte lire et je vais accompagner avec un peu de musique. Par exemple, quand il y a une interview sur Paris, j'aurai Edith Piaf qui va chanter « La vie en rose ». Et quand j'ai des interviews romantiques, il y en a deux. Il y a Frank Sinatra qui va chanter « Strangers in the Night ». Donc, c'est comme le premier chapitre, c'était les interviews. Le second chapitre, c'était la publication. Et maintenant, c'est une autre façon de toucher les gens. Parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est le contact avec les gens. Donc, je vais mener ça à terme. Je vais voir jusqu'où ça va me mener. Et le jour que je ne le ferai plus, alors là, je penserai à un autre livre.
Justement, peut-être c'est l'occasion que représente le bonheur.
Oh, le bonheur. Je crois qu'une grande partie du bonheur, c'est de trouver le bonheur dans les petites choses. Si la seule raison pour être heureux, ce sont de grandes choses, on va être vraiment déçu dans la vie. Il faut vraiment trouver le bonheur quand on sent l'odeur d'une rose ou bien quand on voit la pluie sur une feuille. Je crois qu'il faut savoir apprécier les petites choses dans la vie. Quelque chose que je trouve que pour moi est une grande cause de bonheur, c'est de bonnes conversations. Quand on sent qu'il y a une communion, ça me transporte à des niveaux incroyables.
Y a-t-il assez de bonheur dans le monde?
Ça, c'est une autre chose. Je crois qu'il faut choisir le bonheur au-delà de tout.
Oui. Ça rend les gens plus heureux, n'est-ce pas?
Oui. Et le bonheur, c'est contagieux également.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est aussi important de s'entourer de personnes positives. Puis, je dois dire quelque chose. Je me suis rendu compte que mon livre, c'est un livre qui reflète une réalité d'un monde qui a quand même de l'argent. Aucun des personnes que j'ai interviewées n'ont mentionné, par exemple, qu'ils aimeraient pouvoir aller à l'école, ils aimeraient pouvoir ne pas avoir faim comme cause de bonheur. Personne n'a mentionné ça parce que nous prenons tout ça pour acquis. Donc, j'ai un peu réfléchi à ça et je me suis dit, quelles auraient été mes réponses si, par exemple, j'avais été au Venezuela ou bien en Afghanistan ou bien en Syrie?
Quel aurait été leur bonheur?
Oui, exactement. Et peut-être ça aurait été le fait de pouvoir manger tous les soirs, par exemple.
Parmi toutes ces personnes justement que vous avez interviewées, y a-t-il un élément clé que tout le monde parle, disons, pour eux d'obtenir? Est-ce qu'il y avait une réponse qui revenait souvent?
Oui. Famille et amis.
Famille et amis.
Famille et amis. Et aussi la foi, c'était très important. Oui. Être créatif, voyager, parfois manger bien, boire bien.
C'était pas vraiment avoir de l'argent ou...
Non, en fait, il y avait très très peu de monde qui mentionnait l'argent comme cause de bonheur. Et celles qui le faisaient, c'était plus les femmes que les hommes. Et aussi, c'était intéressant, c'était surtout les femmes qui disaient que leur emploi, leur travail, ça les rendait heureux. Les hommes ne parlaient pas beaucoup de leur travail. Donc ça, c'est intéressant. Ouais.
Donc, Elisabeth Osterhoff, merci pour cette interview. Donc, vous venez de sortir un livre intitulé « Many Faces of Happiness, Inspiring Stories of What Makes People Happy ». Donc, de nombreux visages du bonheur, des histoires inspirantes sur ce qui rend les gens heureux. Donc, merci encore et bonne fête de fin d'année.
Merci, pareillement.
Et beaucoup de bonheur.
Merci, pareillement.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main.
Et c'est avec Elisabeth Osterhoff que se termine cette édition d'Escale consacrée au bonheur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour l'année qui va commencer. Toute l'équipe d'ONU Info se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2020. Merci de votre fidélité et rendez-vous à l'année prochaine.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous